pas simplement une manière de se raconter des petites histoires comme c'était raconté, comme c'est probablement en train d'être raconté aux enfants maintenant, et n'y voyez rien de péjoratif là-dedans. Mais c'est important pour nous, en tant qu'adultes, de voir que c'est encore notre histoire lorsque nous lisons l'histoire dans le texte biblique. C'est l'histoire du peuple de Dieu et nous appartenons à ce même peuple. Du début de la Genèse jusqu'à aujourd'hui, Dieu agit et lorsque nous découvrons l'histoire du peuple de Dieu, nous découvrons notre histoire et ça nous apprend là d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Et nous savons que c'est essentiel pour bien vivre cette vie sur terre, de savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Alors aujourd'hui, on va voir peut-être l'histoire la plus connue de la vie de David, peut-être l'histoire la plus connue de la Bible, très probablement l'histoire la plus connue pour les enfants, mais même ceux, je pense, qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie, connaissent cette histoire. De quelle histoire je veux parler ? David et Goliath, vous prenez pas beaucoup de risques, de toute façon c'est marqué sur la feuille de cul, comme quelqu'un le... Oui, c'est ça, certains réalisent qu'ils n'ont pas jeté un œil sur la feuille de culte pour l'instant. Oui, David et Goliath. Alors c'est une histoire parfaite pour les enfants, parce que imaginez-vous, si vous faisiez un mètre, imaginez-vous à la fin du culte, quand tout le monde se lève et qu'il y a un peu d'agitation. Les enfants ont l'occasion de vivre ce que tous les Israélites ont pu vivre quand ils ont fait face à Goliath en termes de proportions. Je m'amusais un peu avec les chiffres et j'ai vu que un enfant d'un mètre, il y a la même proportion entre un enfant d'un mètre et ma taille qu'entre ma taille et celle que devait avoir Goliath. Donc ils ont une manière de pouvoir voir, visualiser cette réalité des soldats face à Goliath que peut-être nous perdons. Peut-être encore plus si vous faites plus d'1m80 ou 1m90, vous vivez moins cette réalité de devoir lever les yeux pour vous adresser à tout ce qui vous entoure. Mais pour nous, en tant qu'adultes, en quoi cette histoire a encore quelque chose à nous dire? Surtout si nous avons grandi à l'église, nous avons entendu cette histoire, nous connaissons à peu près comment ça se passe. Je vais pas vous briser le suspense pour la fin, mais on sait à peu près comment ça se finit normalement. Donc en quoi ça nous... il y a encore une pertinence pour nous dans cette histoire. Alors je crois que avec cette histoire, comme n'importe quelle autre histoire de la Bible, et peut-être avec n'importe quelle bonne histoire tout court, on la reçoit de manière différente suivant l'étape dans laquelle on est. C'est notre propre histoire, notre propre situation qui, d'une certaine manière, entre en résonance avec certaines histoires, certains récits, certaines narrations. Et c'est important pour nous en tant que chrétiens de se laisser encore et encore interpeller, parce que suivant notre situation, alors une même histoire peut résonner différemment, peut venir nous interpeller différemment. Et en particulier dans cette histoire, nous voyons le thème de notre foi en Dieu qui vient être présentée d'une manière qui doit nous interpeller à mon avis, qui doit nous remettre en question peut-être. On voit une différence dans cette histoire de David et Goliath entre une foi que j'appellerais de principe, on pourrait dire une foi nominale, une foi presque théorique, et d'un autre côté une foi vivante, une foi qui peut être mise en pratique. D'un côté, il y a le simple fait de croire une information, de croire qu'une information est vraie, ce que j'appellerais donc la foi de principe. D'un autre côté, il y a une foi suffisante pour agir. Le fait de croire suffisamment dans quelque chose pour qu'on puisse mettre notre vie en accord avec cette information, qu'on soit capable de mettre peut-être même notre vie en jeu par rapport à cette information, ce que j'appellerais une foi vivante. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà eu l'occasion, je veux dire dans des situations réelles, de mettre un gilet pare-balles. Je discutais avec certains, alors je ne sais pas si j'ai le droit de dire qui, j'ai pas eu l'occasion de demander à la personne, mais quelqu'un qui cherchait à postuler pour une offre d'emploi dans le Kurdistan irakien. J'imagine, alors cette personne probablement ne prendra pas ce boulot si vous commencez à vous poser des questions qui, mais j'imagine que lorsqu'on travaille dans le Kurdistan irakien, dans le nord de l'Irak, on est amené à porter un gilet pare-balles à un moment ou un autre. Et d'une certaine manière... je ne sais pas si vous serez dans la même situation. Si on me propose un gilet pare-balles dans une situation relativement dangereuse, je vais l'accepter parce que je crois qu'il peut y avoir une certaine efficacité dans ce gilet pare-balles. Je ne sais pas si ce serait votre réaction aussi. Est-ce que vous accepteriez de mettre ce gilet pare-balles si vous saviez qu'il y a un danger pour vous? Oui. Par contre, si quelqu'un vous propose de dire, bah, est-ce que tu crois vraiment dans ce gilet pare-balles? Est-ce que tu crois suffisamment qu'il est efficace pour que je te tire dessus à bout portant? Est-ce que vous accepteriez de mettre votre foi à l'épreuve comme ça? Non? Oui? Oui? Non? Globalement non? Il y a peut-être un ou deux téméraires qui n'assument pas, mais ils disent, oh, j'aimerais bien essayer. Je suis tombé sur cette histoire d'un certain Richard Davis, qui était un fabricant de gilets pare-balles. Alors maintenant, il est depuis longtemps à la retraite. Mais voilà, il y avait des tests qui avaient été faits en labo, et lui, il était convaincu que son produit marchait. D'une certaine manière, il avait cette foi de principe, il croyait que ça marchait, mais il voulait prouver que c'était pas simplement une foi de principe, qu'il croyait vraiment et qu'il était prêt à mettre sa vie en jeu pour prouver que son gilet pare-balles marchait. Et il a commencé, c'était dans la fin des années 70, à faire des démonstrations en se tirant lui-même avec un pistolet dans le gilet pare-balles, en portant le gilet pare-balles, pour prouver que ça marchait. Et alors, ça a marché. Il s'est filmé, il a même continué de le faire, il l'a fait plus de 200 fois dans toute sa carrière où il a pu vendre ses gilets pare-balles. À chaque fois, il demandait aux différents organismes auxquels il vendait ses gilets de lui passer un pistolet, que ce soit rien de truqué. Il prenait n'importe quel pistolet qui lui était transmis et il se tirait lui-même une balle dans le ventre pour prouver que son gilet marchait. Et pour lui, c'était sa manière de prouver que c'était pas simplement une information, qu'il croyait pas simplement qu'en théorie son gilet marchait, mais qu'il était prêt à mettre sa vie en jeu pour prouver qu'il avait, si on veut utiliser un vocabulaire biblique, une foi vivante dans ses gilets. Et je crois que d'une certaine manière, ça résume bien la situation du peuple d'Israël quand ils font face à Goliath. Ils ont à faire ce choix. Est-ce que nous allons avoir une foi vivante? Est-ce que nous allons être prêts à la mettre en pratique? Ou est-ce que nous avons simplement une foi de principe, mais qui au moment de passer aux choses sérieuses ne peut pas nous amener à agir? Alors on va pas lire l'ensemble, je vous invite à le faire chez vous, mais l'ensemble du chapitre 17 du premier livre de Samuel, dans lequel nous avons toute cette histoire, mais je vais vous lire les 11 premiers versets. Donc 1 Samuel 17, à partir du premier verset. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soukho, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soukho et Azekah, à Éphèse d'Amim. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les deux armées. Alors, un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60 kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et il leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute l'armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Alors ici, le décor est planté. On a les Philistins d'un côté, les Israélites de l'autre. Et en fait, c'est en train de devenir une scène presque habituelle parce qu'ils ont l'habitude de se rencontrer et de se combattre. Mais ce qui est surprenant dans cette scène, c'est qu'ici, au lieu de s'affronter rang contre rang, il y a un champion qui se présente et qui présente un marché de dire « Mais plutôt que de s'entretuer tous, faisons un face-à-face. Celui qui gagne le face-à-face gagnera la bataille. Il n'y aura pas besoin de combattre pour tous les autres. » Et la réaction des Israélites est assez simple. En fait, ils sont entièrement pétrifiés de peur. Et on le voit même dans cette description. face à une même réalité, on peut décrire les choses différemment, et on va le voir dans la suite du texte. Mais là, l'accumulation de tous les éléments qui décrivent Goliath montre bien à quel point ils étaient omnubilés et presque envoûtés par sa grandeur. Il fait presque 3 mètres, une cuirasse d'une 60aine de kilos, etc., etc. On a presque l'impression d'être dans les rangs des soldats et dire, mais t'as vu son casque? T'as vu ce qu'il a pour lui protéger ses jambes? T'as vu son javelot? Etc., etc. Ils sont vraiment envoûtés par sa grandeur. Et c'est ce qui nous amène au verset 11. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Mais en fait, lorsqu'on suit un peu l'histoire d'Israël, depuis le début du livre de Samuel, mais bien avant encore, on peut se dire que leur problème, alors pour eux, ils étaient persuadés que leur problème c'était Goliath, que c'était ce géant qui allait les battre, mais en fait, lorsqu'on lit de manière attentive l'histoire d'Israël, leur problème est bien plus profond que ça. Parce qu'ils avaient eu affaire à un certain nombre de situations difficiles. Ils avaient eu beaucoup d'ennemis qui les dépassaient largement. Et en tant que peuple d'esclaves, ils avaient pu se libérer de la puissance des Égyptiens, qui était une puissance incomparable par rapport à celle de Goliath. Et ils avaient déjà eu des victoires sur les Cananéens. Ne serait-ce qu'au chapitre 14 du premier livre de Samuel, on voit Jonathan qui fait un acte de foi, s'avance vers une garnison seule avec celui qui porte ses armes, et à eux deux, ils arrivent à remporter la victoire contre cette garnison des Philistins, et ça donne lieu à une grande victoire sur les Philistins. Donc ils avaient déjà eu un certain nombre de situations comme ça. Peut-être le problème le plus profond pour Israël, ici, ce n'est pas qu'ils aient à faire face à Goliath, c'est que plus aucun d'eux ne semble se souvenir de leur histoire. Plus aucun d'eux ne semble tenir compte, surtout du Dieu qui a agi pour obtenir ses victoires dans le passé. Plus personne ne mentionne que leur Dieu est un Dieu puissant et qu'il peut agir. Et on va le voir tout au long du chapitre. Le seul qui parle de Dieu, c'est David. Tous les autres parlent de Goliath en permanence. Et comme ce géant, comme celui qui est particulièrement impressionnant, ce champion, ce guerrier. Et c'est ce qui est terrible dans la situation des soldats d'Israël à ce moment-là. Dieu leur avait montré de nombreuses fois et de plein de manières qu'ils pouvaient remporter des grandes victoires, même sans que eux-mêmes combattent. Au chapitre 5, il y a cette statue de Dagon dans le temple des Philistins, qui se retrouve deux fois face contre terre et qui finit par être quasiment détruite, sans que personne ne combatte. Et Dieu montre par là qu'il est tout puissant, il est le seul vrai Dieu, comme ça a pu être dit dans le texte d'Ésaïe tout à l'heure pendant la présidence, il est le seul vrai Dieu et que les statues de Dieu philistin n'ont aucun pouvoir. Et c'est ce qui est terrible pour Israël, c'est que eux ne voient que Goliath. Ils ne voient que le grand Goliath. Ils ne voient plus leur histoire, ils ne voient plus Dieu, ils ne voient que Goliath. Et c'est au moment particulier où ils auraient dû pouvoir justement mettre leur foi en pratique, se dire mais nous croyons vraiment que Dieu est puissant et maintenant ça va faire une différence parce que nous faisons face à un géant. C'est à ce moment-là qu'ils en sont réduits à simplement une foi de principe. Je suis sûr que si on avait demandé aux soldats israélites à ce moment-là, qui est votre Dieu? Est-ce que vous croyez en un Dieu? Ils auraient répondu, oui, nous avons un Dieu, c'est le Dieu vivant, nous servons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient encore cette foi nominale, cette foi de principe. Mais dans leurs actes, dans leurs réactions, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus de foi vivante. Il n'y a plus de foi qui peut les amener à avoir des actions concrètes et un regard différent sur la situation. Et bien sûr, pour nous, ça peut avoir des résonances très très personnelles, très individuelles. On peut tous faire face à des défis et c'est quelque chose qui est en général rappelé lorsqu'on aborde ce texte, que nous pouvons avoir des Goliaths, des défis, des choses qui nous dépassent, et nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Mais je crois que ça ne s'arrête pas à nos enjeux individuels. Collectivement aussi, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons nous retrouver dans des situations très similaires à celles des soldats d'Israël. Et j'étais interpellé en méditant sur ce texte de repenser à l'histoire du tabernacle. Peut-être plus que beaucoup d'églises, l'histoire du tabernacle est faite de foi, d'actes de foi et de miracles liés à la foi de ceux qui ont participé à l'histoire de cette église. J'ai avec moi le petit livre Par la foi le triomphe, qui retrace en gros les années 20 et 30 et un peu plus de l'histoire du tabernacle. C'est pas pour rien que le titre c'est Par la foi le triomphe. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de qui nous sommes, que nous soyons tout à fait nouveaux ici ou que non pas que nous ayons vécu cette période-là, mais que nous soyons là depuis très longtemps. C'est notre histoire, nous avons une histoire de foi. Et justement, je voudrais vous lire un extrait de ce livre. Je vous encourage, c'est une aparté, je vous encourage à lire ce livre. Si vous l'avez chez vous et que vous l'avez pas lu depuis très longtemps, que vous l'avez jamais lu, je vous encourage à le lire. Si vous l'avez chez vous et que vous l'avez lu il y a pas longtemps, je vous encourage à le prêter à quelqu'un de l'église et que nous puissions tous ensemble être au fait de notre histoire. Et je voudrais vous lire cet extrait qui parle de du projet qu'il y avait pour construire le bâtiment dans lequel nous sommes actuellement, et plus précisément pour acheter le terrain de ce bâtiment. Jamais nous n'oublierons ce dimanche de mars 1921, prélude de beaucoup d'autres, mais nous vîmes pour la première fois vis-à-vis de l'Église s'exercer dans ce domaine matériel la puissance de Dieu. Monsieur Blocher exposa à son Église le problème. Il lui demanda de prier pour que nous puissions acheter ce terrain pour lequel il nous fallait 90 000 francs. Quelle somme énorme, quelle ambition impossible à satisfaire. Mais après le culte, un des membres s'approcha, mit dans la main du pasteur 3 000 francs et en promit 12 000 autres. 15 000 francs, c'était le sixième de ce qu'il fallait. Le pasteur fit rasseoir l'auditoire, lui dit ce qui venait de se passer. L'émotion était indescriptible, car ce membre si généreux était loin d'être un riche de ce monde. Je continue un peu plus loin. Là, il y a l'acquisition du terrain qui peut se faire. Je continue quelques lignes plus loin. Un problème se posait à Monsieur Blocher dès qu'il reprit après les vacances les négociations pour l'achat du terrain. Il avait en main presque tout l'argent nécessaire, mais à condition de vendre les 50 000 francs de valeur française donnés par une famille de l'Église. Le marché des rentes était fermé à ce moment-là, il n'avait pas de cours à la bourse et elle ne trouvait pas preneur. Monsieur Blocher multipliait les démarches, car le lundi 28 novembre, l'acte de vente devait être signé. La Banque de France ne voulait prêter sur elle qu'une somme infime. Notre angoisse était grande et nos prières montaient ardentes au trône de Dieu. Tout le samedi se passa en démarches fatigantes et inutiles. Samedi après-midi, nous reçûmes un télégramme d'un cher ami anglais que Dieu avait suscité le lendemain de notre séparation et qui s'intéressait de tout cœur à notre entreprise, s'intéressant de tout cœur à notre entreprise, était devenu membre de notre comité anglais de construction. Il annonçait son arrivée par un certain train. Ne devait-il pas signer l'acte de vente le lundi? Monsieur Blocher alla l'attendre à la gare. Il rentra à la maison à 11h du soir et me dit: « Devine ce que Monsieur H. vient de m'annoncer. Il a trouvé des preneurs pour les 50 000 francs des titres et m'a donné ce chèque pour les payer. » Et écoutez bien cette conclusion. Je regardais ce bout de papier, réponse à tant de prières, avec un émerveillement mêlé de crainte. Il me semblait toucher du doigt la puissance même de Dieu. Il avait délivré à la 11e heure, le samedi soir, quand à vue humaine, aucun espoir n'était possible. Nous avions là un exemple de cette règle constante. Dieu délivre quand toutes ses ressources humaines sont épuisées, quand notre seul espoir est en lui, car il faut qu'il ait seul la gloire. Je trouve que c'est un très bel encouragement, et ce livre est plein d'encouragements du même type, de voir Dieu qui a agi miraculeusement de plein de manières pour accomplir son œuvre bien au-delà des capacités qui étaient celles de l'Église à l'époque. Et dans ce sens-là, il n'est pas difficile pour nous de pouvoir nous mettre dans la peau des soldats d'Israël face à Goliath. Comme eux qui avaient les yeux rivés sur leur propre capacité et sur le défi qui était devant eux, il peut y avoir un risque pour nous d'être absolument focalisés sur nos propres capacités, notre propre puissance et peut-être les défis qui sont devant nous. Mais nous pouvons aussi avoir cet élan de se dire, mais nous n'avons pas les forces de refaire des exploits du passé, de réécrire l'histoire, de simplement accomplir à nouveau des choses qui auraient été faites par le passé. Par contre, nous pouvons avoir la même foi que ceux qui sont passés avant nous. Nous pouvons être encouragés par leur foi et partager cette même foi. Que ce soit la foi de David ou que ce soit la foi de ceux qui ont été les membres de cette église au travers de son histoire. C'est le même Dieu qui a permis à Israël d'être libéré d'Égypte. C'est le même Dieu qui a donné la victoire à Israël sur les Philistins. C'est le même Dieu qui a permis la construction de ce bâtiment. C'est le même Dieu qui est avec nous ce matin et qui nous accompagne. Alors je crois qu'en tant que chrétien, on peut difficilement se satisfaire d'une foi de principe, de dire « oui, je crois en Dieu, je crois que Jésus est ressuscité » et tout ça. Dieu nous appelle à avoir une foi vivante qui change la manière dont nous agissons dans les circonstances qui sont les nôtres. Et justement, je voudrais qu'on continue dans ce chapitre avec le regard que David apporte sur la situation. Donc nous avons vu que nous sommes appelés à vivre notre héritage de foi. Mais David nous apporte un aspect très particulier sur la manière de vivre cet héritage de foi. Donc pendant 40 jours, il y a Goliath qui continue de faire ce même discours et qui continue de démoraliser et de faire peur à tout Israël. Et c'est à ce moment-là que David est envoyé par son père pour venir ravitailler ses frères et ravitailler aussi les chefs de l'armée. Et c'est lorsqu'il arrive qu'il découvre la situation. Alors je reprends la lecture au verset 21 jusqu'au verset 27. 1 Samuel 17, verset 21. Israélites et Philistins se rangeaient en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia aux gardiens des bagages, puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et leur lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus de sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. » David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui. « Qu'est-ce donc que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Qui est donc cet incirconcis de Philistins pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant. On répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque David arrive face à Goliath, lui aussi est entièrement troublé, lui aussi est absolument choqué par la situation, mais pas du tout pour la même raison que les soldats. On a l'impression de voir les soldats se répéter les uns aux autres, mais il va nous détruire, il va nous détruire, il est géant, il est grand, il va nous détruire, on va tous mourir, il est géant, il va nous détruire. Et David, lui, est tout aussi troublé, tout aussi exaspéré, mais pas du tout pour la même raison. Il dit, mais comment on peut laisser le peuple de Dieu être insulté par quelqu'un qui n'appartient pas à son peuple? Comment on peut se laisser insulter? Comment on peut laisser le Dieu d'Israël être insulté par ce Philistin? Pourquoi personne ne fait rien? Il y a une récompense, il devrait y avoir quelque chose de fait. Pourquoi personne ne fait rien? On voit que dans la même situation, face à aux mêmes paroles de Goliath, il y a une réaction diamétralement opposée. Et elle est diamétralement opposée parce que la foi qui anime les soldats et David est opposée et entièrement différente. Les soldats, eux, voient la situation au travers de leur propre force. David voit cette situation au travers de sa relation avec Dieu. David se voit comme membre du peuple de Dieu, il sait son Dieu vivant et tout-puissant, et donc il sait que si quelqu'un s'attaque au peuple de Dieu, il s'attaque à Dieu, et donc c'est cette personne-là qui est en danger, pas nous. Parce qu'il a une foi vivante, il a un regard sur la situation qui est entièrement différent. Il est animé par cette foi, et ça l'amène à voir ces situations de manière différente. Et je pense que c'est un test qui est vrai pour chacun d'entre nous. On peut avoir notre foi et de pas trop savoir où on en est dans notre vie, mais c'est en général quand on fait face à des difficultés que là, on peut se dire, mais est-ce que je vais regarder cette situation comme les soldats ou comme David? Et là, ça va révéler un certain nombre de choses pour nous, de la situation de notre foi. Parce que David a une foi vivante, il voit pas un affrontement entre Goliath et des soldats. Il voit un affrontement entre Dagon, ce faux dieu des Philistins, et le dieu d'Israël, le dieu vivant. et entre une statue morte qui est déjà tombée plusieurs fois dans le temple et le Dieu vivant d'Israël, il sait qu'il n'a pas à s'inquiéter. Mais s'il ne s'inquiète pas, c'est parce qu'il voit une lutte entre le faux Dieu des Philistins et le Dieu d'Israël, et pas une lutte entre Goliath et les soldats. Et je vois que dans ce regard particulier, ce regard de David qui ne regarde pas du tout à l'enjeu de la force de Goliath, qui ne regarde pas du tout à sa propre force, mais uniquement à la puissance de Dieu, il y a quelque chose auquel nous devons inspirer. Et nous ne devons pas, à mon avis, tomber dans quelque chose de fataliste, de dire, mais voilà, David, lui, il avait une grande foi, moi non. Lui, il croyait dans des grandes choses, moi c'est plus compliqué. Je ne crois pas que David a reçu sa foi du jour au lendemain. Il n'a pas commandé sur Amazon Prime, il a eu, avant la fin de la journée, une foi en béton pour faire face à Goliath. On voit dans son échange avec Saül dans les versets qui suivent qu'il a cultivé cette foi, que c'est en tant que berger, dans l'ombre, lorsque personne ne le voyait, qu'il a travaillé cette foi, qu'il a mis cette foi à l'épreuve, qu'il a commencé à faire confiance à Dieu et à cultiver sa relation avec Dieu, et que ça a pu se concrétiser dans le rôle qui était le sien, celui de berger. Il a pu protéger ses brebis contre l'ours, contre le lion. Et là encore, je crois pas qu'il a commencé par l'ours et le lion, mais c'est au travers de cette foi qu'il a vu grandir dans sa relation avec Dieu, qu'il a pu combattre le lion et l'ours. Lorsqu'il en discute avec Saül, il ne dit pas « parce que j'ai eu la victoire sur un lion et sur un ours, alors j'aurai pas de problème avec Goliath ». Mais au verset 37, il précise « l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin ». C'est le même Dieu qui m'a assisté, qui a eu la victoire sur ce lion et sur cet ours, qui me permettra d'avoir la victoire contre ce Philistin. Il voyait tout autant son rôle de berger comme un lieu d'entraînement pour sa foi, que ce champ de bataille comme un lieu où il pouvait mettre en pratique sa foi. À aucun moment il ne s'agit de savoir s'il est puissant, s'il est capable de tuer ce géant. Et c'est un encouragement pour nous de dire, quelle que soit notre foi aujourd'hui, peut-être que nous n'avons aucune foi aujourd'hui, nous ne croyons même pas en Dieu, peut-être que nous croyons simplement en Dieu mais que ça n'a pas d'effet dans notre vie, peut-être que nous avons avancé dans notre vie chrétienne, mais quelle que soit notre situation, nous avons l'opportunité de mettre notre foi à l'épreuve, de mettre notre foi au travail, de la laisser grandir, et que ce soit dans les situations réelles qu'elle puisse se développer. C'est vrai dans n'importe quel sport, dans n'importe quel exercice. Si vous voulez vous mettre à soulever 100 kilos aujourd'hui, ce ne sera pas qu'une question de bonne volonté. Vous pouvez y croire très fort. Alors peut-être c'est déjà votre cas maintenant, mais si ce n'est pas votre cas, si c'est la première fois que vous voulez soulever 100 kilos, ça ne va pas être un enjeu de bonne volonté. Ça va être un enjeu de s'entraîner avec 30, 40, 50, et au fil des jours, des semaines, des mois, des années, pouvoir progresser. Et quel que soit l'objectif, il ne s'agit pas premièrement d'avoir une bonne volonté pour faire des exploits, mais de développer certaines choses dans nos vies. Et la foi, je crois que ça fonctionne comme ça. Nous avons besoin de la mettre en pratique au quotidien si nous voulons pouvoir avancer en voyant Dieu faire des exploits au travers de nos vies. J'aime beaucoup cette situation où ce père vient apporter son enfant qui est démoniaque à Jésus. Et il lui dit, mais si tu peux, délivre mon fils. Et c'est en Marc 9, Jésus a cette réponse. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Et je sais pas pour vous, mais je suis à peu près persuadé que c'est notre situation à tous. Si nous croyons, quelle que soit notre foi, nous pouvons encore dire, je manque de foi. Oui Seigneur, je crois, mais j'ai besoin que tu fasses encore grandir ma foi. Et je préfère vous mettre en garde, si on fait cette prière de demander à Dieu d'augmenter notre foi, c'est aussi prendre un risque. Parce que Dieu mettra notre foi à l'épreuve s'il veut la faire grandir. Comme un entraîneur sportif qui mettrait sous pression, dans certaines difficultés, le sportif pour qu'il puisse grandir. Alors, aussi, Dieu, lorsqu'il veut faire grandir notre foi, il peut nous mettre dans des situations difficiles où on aura besoin de faire grandir cette foi, de la mettre à l'épreuve, de la mettre au travail pour qu'elle puisse grandir. Donc nous avons vu que nous devons vivre notre héritage de foi, nous avons vu que nous devons cultiver notre foi pour avoir ce même regard que David avait sur la situation, d'avoir un regard de foi sur nos situations. Et enfin, ce qui me frappe dans cet affrontement entre David et Goliath, et c'est ce qui ressort aussi de l'extrait que j'ai lu de Par la foi le triomphe, c'est que Dieu se glorifie et il aime se glorifier dans nos faiblesses. C'est pas un hasard si c'est des petits, des personnes que personne n'estimerait, qui remportent des grandes victoires dans la Bible. Parce que Dieu veut s'assurer que à lui seul revienne la gloire. David fait partie d'un grand nombre d'exemples, avec Gédéon, avec Jonathan, comme je citais à l'instant, avec beaucoup d'autres, qui remportent de grandes victoires au cœur de leur faiblesse pour que ce soit Dieu qui manifeste sa grandeur. Si on reprend cette scène de ce champion qui fait 3 mètres, qui impressionne tout le monde, si David avait été un grand soldat, qu'il avait fait, je sais pas, 2m20, 2m25, hyper entraîné, qu'il avait été le champion de l'armée, comme on voit Joab et ses frères, ou Abner ensuite, quelle aurait été la conclusion pour les Philistins, pour Israël? Waouh, le peuple de Dieu a des super soldats. Waouh, David est vraiment le meilleur, il a réussi à remporter la victoire sur Goliath. Un peu comme c'est chanté plus tard que Saül a remporté ses 1000 et David a remporté ses 10 000. Et il y a une célébration de David comme un soldat ensuite. Mais ici, précisément, c'est pas ce qu'on voit. Dieu choisit, à dessein, de prendre celui en qui personne ne croit pour remporter cette victoire. Si on regarde bien dans les chapitres qu'on vient de lire, tout le monde méprise David, en tout cas en tant que soldat. Son père ne croit pas que c'est lui qui peut être le chef. Ses frères sont particulièrement humiliants avec lui, en particulier dans ce passage, un verset que j'ai pas lu mais qui est dans ce chapitre. Saül n'y croit pas du tout. Goliath l'insulte ouvertement. Tout le monde est convaincu que David n'a pas sa place ici. Et en fait, il vient pour apporter le ravitaillement, donc il n'avait concrètement même pas sa place en tant que soldat de base. Il n'avait même pas été recruté simplement pour faire partie de la sécurité autour du campement. C'est quelqu'un qui n'aurait même pas dû être parmi les soldats qui va remporter cette victoire contre Goliath. Et c'est précisément parce que David est incapable de gagner que tout le monde va pouvoir voir que c'est Dieu qui tue Goliath, pas David. Et c'est ce que David explique. Si je reprends au verset 46, David fait face à Goliath et il lui dit « Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Verset 47, « Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. » C'est quelque chose qui est répété plusieurs fois. David est celui qui remporte la victoire sans épée, parce que c'est Dieu qui remporte cette victoire. Et ça peut être un bon rappel pour nous, que nous nous voyons petits ou grands. On peut avoir cette tentation de dire « Ah, mais il faudrait que nous soyons grand, que nous ayons cette puissance, il faudrait que nous ayons tel ou tel statut pour pouvoir accomplir de grandes choses pour Dieu. » Mais je pense qu'il y a certaines situations qui sont presque ironiques, parce que vouloir être grand pour accomplir des grandes choses, c'est presque l'inverse de ce que nous voyons tout au long de la Bible. Que Dieu aime se glorifier, non pas malgré notre faiblesse, mais au cœur de notre faiblesse, par notre faiblesse, pour que la gloire lui revienne. C'est Paul qui nous le rappelle. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas « Oh ben, ils sont petits, mais on va quand même essayer quelque chose. » C'est parce que nous sommes petits, parce que nous sommes faibles, que Dieu veut se glorifier au travers de nous. Précisément parce que c'est un enjeu de foi. Dieu veut que nous détournions nos regards de nos propres ressources et que nous regardions à lui. Nous ne devons pas chercher à être à la hauteur de Dieu. Mais nous devons simplement avoir une foi simple qui croit dans la grandeur de notre Dieu. L'exploit dans ce texte, c'est pas David qui tue Goliath. Ce n'est pas son talent de lanceur de cailloux qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, et l'exploit, si on peut dire, c'est sa foi simple, sans compromis, que Dieu est un Dieu puissant et qu'il est capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, quelle que soit notre situation, on peut être chrétien depuis un jour ou depuis 50 ans, je crois qu'on a toujours besoin de se voir rappeler ce défi de voir notre foi grandir. On ne peut pas simplement se dire « Oui, je crois, je suis chrétien, je crois en Jésus, je crois qu'il est ressuscité. » Nous avons besoin d'une foi vivante, c'est-à-dire une foi qui nous amène à voir notre quotidien, voir notre réalité, voir nos défis, voir nos problèmes, voir nos opportunités avec le regard de la foi, en considérant la puissance de Dieu. Et ça peut être un enjeu pour nous individuellement, mais il apparaît clairement que ce n'est pas que un enjeu individuel. En tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous devons aussi cultiver ce regard de foi. Nous ne devons pas être absorbés par nos défis, absorbés par notre propre regard sur nos propres ressources. Si nous avons des défis, nous devons les comparer non pas à nos propres forces, mais à la puissance de Dieu, à sa grandeur, à sa générosité. Et c'est ensemble que nous devons cultiver cette foi vivante, nous encourager les uns les autres, témoigner les uns aux autres de ce que Dieu fait, parce que c'est ensemble que nous voulons faire face et pouvoir honorer Dieu, rendre gloire à Dieu. Qu'au travers de notre faiblesse, nous puissions laisser Dieu être grand, agir avec grandeur, et qu'au travers de cette grandeur, que toute la gloire puisse lui être rendue. Que nous soyons un petit peuple, une petite église faite de petits chrétiens qui peuvent rendre gloire à un très grand Dieu et qui laissent un très grand Dieu agir au travers de nous. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci parce que ta grandeur nous dépasse entièrement. Non seulement elle nous dépasse, mais elle dépasse nos situations, elle dépasse nos défis, elle dépasse nos besoins. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes omnubilés par qui nous sommes, par notre faiblesse, par nos incapacités. Pardonne-nous notre foi de principe. Seigneur, viens nous donner une foi vivante, une foi qui croit que tu es un Dieu tout-puissant, qui peut agir avec grandeur. Permets-nous de, d'une part, reconnaître notre faiblesse, reconnaître nos incapacités, mais te laisser agir et croire réellement que tu es un Dieu qui peut agir au milieu de nous. Nous ne sommes pas appelés à imiter le passé, mais nous sommes appelés à partager la même foi de ceux qui ont cru en toi et qui t'ont vu agir. Seigneur, merci parce que tu fais bien au-delà de nos fautes et de nos faiblesses, mais que tu agis avec grandeur et générosité, Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Amen.